Chapitre 7, prise de la Bastille, 14 juillet 1789. Versailles, avec un gouvernement organisé, un roi, des ministres, un général, une armée, n'était qu'hésitation, doute, incertitude dans la plus complète anarchie morale. Paris, bouleversé, délaissé de toute autorité légale, dans un désordre apparent, atteignit le 14 juillet, ce qui moralement est l'ordre le plus profond, l'unanimité des esprits. Le 13 juillet, Paris ne songeait qu'à se défendre. Le 14, il attaqua. Le 13 au soir, il y avait encore des doutes. Il n'y en est plus le matin. Le soir était plein de troubles, de fureurs désordonnées. Le matin fut lumineux et d'une sérénité terrible. Une idée se leva sur Paris avec le jour, et tous virent la même lumière. Une lumière dans les esprits et dans chaque cœur une voix. Va, et tu prendras la Bastille. Cela était impossible, insensé, étrange à dire. Et tous le crurent néanmoins, et cela se fit. La Bastille, pour être une vieille forteresse, n'en était pas moins imprenable à moins d'y mettre plusieurs jours et beaucoup d'artillerie. Le peuple n'avait en cette crise ni le temps ni les moyens de faire un siège régulier. L'eût-il fait, la Bastille n'avait pas à craindre, ayant assez de vivres pour attendre un secours si proche et d'immenses munitions de guerre. Ces murs de 10 pieds d'épaisseur au sommet des tours, de 30 ou 40 à la base, pouvaient rire longtemps des boulets. Et ces batteries, à elles, dont le feu plongeait sur Paris, auraient pu en attendant démolir tout le Marais, tout le faubourg Saint-Antoine. Ces tours, percées d'étroites croisées et de meurtrières, avec double et triple grilles, permettaient à la garnison de faire en toute sûreté un affreux carnage des assaillants. L'attaque de la Bastille ne fut nullement raisonnable. Ce fut un acte de foi. Personne ne proposa, mais tous crurent et tous agirent. Le long des rues, des quais, des ponts, des boulevards, la foule criait à la foule « À la Bastille ! À la Bastille !» Et dans le tocsin qui sonnait, tous entendaient « À la Bastille !» Personne, je le répète, ne donna l'impulsion. Les parleurs du palais royal passèrent le temps à dresser une liste de proscriptions, à juger à mort la reine, la Polignac, Artois, le prévôt Flessel, d'autres encore. Les noms des vainqueurs de la Bastille n'offrent pas un seul défaiseur de motion. Le palais royal ne fut pas le point de départ, et ce n'est pas non plus au palais royal que les vainqueurs ramenèrent les dépouilles et les prisonniers. Encore moins les électeurs qui siégeaient à l'hôtel de ville eurent-ils l'idée de l'attaque. Loin de là pour l'empêcher, pour prévenir le carnage que la Bastille pouvait faire si aisément, ils allèrent jusqu'à promettre au gouverneur que, s'il retirait ses canons, on ne l'attaquerait pas. Les électeurs ne trahissaient point, comme ils en furent accusés, mais ils n'avaient pas la foi. Qui l'eut ? Celui qui eut aussi le dévouement, la force pour accomplir sa foi. Qui ? Le peuple, tout le monde. Les vieillards qui ont eu le bonheur et le malheur de voir tout ce qui s'est fait dans ce demi-siècle unique où les siècles semblent entassés, déclarent que tout ce qui suivit de grand, de national, sous la République et l'Empire, eut cependant un caractère partiel, non unanime, que le seul 14 juillet fut le jour du peuple entier. Qu'il reste donc ce grand jour, qu'il reste une défaite éternelle du genre humain, non seulement pour avoir été le premier de la délivrance, mais pour avoir été le plus haut dans la concorde. Que se passa-t-il dans cette courte nuit où personne ne dormit, pour qu'au matin, tout dissentiment, toute incertitude disparaissant avec l'ombre, ils eurent les mêmes pensées ? On sait ce qui se fit au palais royal, à l'hôtel de ville, mais ce qui se passa au foyer du peuple, c'est là ce qu'il faudrait savoir. Là, pourtant, on le devine assez par ce qui suivit. Là, chacun fit dans son cœur le jugement dernier du passé. Chacun, avant de frapper, le condamna sans retour. L'histoire revint cette nuit-là. Une longue histoire de souffrance dans l'instinct vengeur du peuple. L'âme des pères qui, tant de siècles souffrirent, moururent en silence, revint dans les fils et parla. Homme fort, homme patient, jusque-là si pacifique, qui deviez frapper en ce jour le grand coup de la Providence, la vue de vos familles sans ressources autres que vous n'amollit pas votre cœur. Loin de là, regardant une fois encore vos enfants endormis, ces enfants dont ce jour allait faire la destinée, votre pensée grandit, embrassa les libres générations qui sortiraient de leur berceau et sentit dans cette journée tout le combat de l'avenir. L'avenir et le passé faisaient tous deux même réponse. Tous deux, ils dirent « Va !» Et ce qui est hors du temps, hors de l'avenir et du passé, l'immuable droit le disait aussi. L'immortel sentiment du juste donna une assiette d'airain au cœur agité de l'homme et lui dit « Va, paisible, que t'importe. Quoi qu'il t'arrive, mort, vainqueur, je suis avec toi. » Et qu'est-ce que la Bastille faisait à ce peuple? Les hommes du peuple n'y entrèrent presque jamais. Mais la justice lui parlait. Et une voix qui plus fortement encore parle au cœur, la voix de l'humanité et de la miséricorde. Cette voix douce qui semble faible et qui renverse le tour, déjà, depuis 10 ans, elle faisait chanceler la Bastille. Il faut dire vrai. Si quelqu'un eut la gloire de la renverser, c'est cette femme intrépide qui si longtemps travailla à la délivrance de la Tude contre toutes les puissances du monde. La royauté refusa, la nation arracha la grâce. Cette femme ou ce héros fut couronné dans une solennité publique. Couronner celle qui avait pour ainsi dire forcé les prisons d'État, c'était déjà les flétrir, les vouer à l'exécration publique, les démolir dans le cœur et dans le désir des hommes. Cette femme avait pris la Bastille. Depuis ce temps, le peuple de la ville et du faubourg, qui sans cesse, dans ce lieu si fréquenté, passait, repassait dans son ombre, ne manquait pas de la maudire. Elle méritait bien cette haine. Il y avait bien d'autres prisons, mais celle-ci, c'était celle de l'arbitraire capricieux, du despotisme fantasque, de l'acquisition ecclésiastique et bureaucratique. La cour, si peu religieuse en ce siècle, avait fait de la Bastille le domicile des libres esprits, la prison de la pensée. Moins remplie sous Louis XVI, elle avait été plus dure. La promenade fut ôtée aux prisonniers, plus dure et non moins injuste. On rugit pour la France d'être obligée de dire que le crime d'un des prisonniers était d'avoir donné un secret utile à notre marine. On craignit qu'il ne le portât ailleurs. Le monde entier connaissait, haïssait la Bastille. Bastille, tyrannie était dans toutes les langues de mots synonymes. Toutes les nations à la nouvelle de sa ruine se crurent délivrées. En Russie, dans cet empire du mystère et du silence, cette Bastille monstrueuse entre l'Europe et l'Asie, la nouvelle arrivée à peine que vous auriez vu des hommes de toutes nations crier, pleurer sur les places. Ils se jetaient dans les bras l'un de l'autre en se disant la nouvelle. Comment ne pas pleurer de joie? La Bastille est prise! Le matin même du grand jour, le peuple n'avait pas d'armes encore. La poudre qu'il avait prise la veille à l'arsenal et mise à l'hôtel de ville lui fut lentement distribuée pendant la nuit par 3 hommes seulement. La distribution ayant cessé à un moment vers 2 heures, la foule désespérée enfonça les portes du magasin à coups de marteau. Chaque coup faisait feu sur les clous. Point de fusil. Il fallait aller les prendre, les enlever des Invalides. Cela était très hasardeux. Les Invalides sont, il est vrai, une maison toute ouverte. Mais le gouverneur Sombreuil, vieux et brave militaire, avait reçu un fort détachement d'artillerie et de canons sans compter ce qu'il avait. Pour peu que ces canons servissent, la foule pouvait être prise en flanc par les régiments que Besenval avait à l'école militaire, facilement dispersés. Ces régiments étrangers auraient-ils refusé d'agir? Quoi qu'en dise Besenval, il est permis d'en douter. Ce qui apparaît bien mieux, c'est que, laissé sans ordre, il était lui-même plein d'hésitation et comme paralysé d'esprit. Le matin même à 5 heures, il avait eu une visite étrange. Un homme entre, pâle, les yeux enflammés, la parole rapide et courte, le maintien audacieux. Le vieux Fa, qui était l'officier le plus frivole de l'ancien régime, mais brave et froid, regarde l'homme et le trouve beau aussi. « Monsieur le baron, dit l'homme, il faut qu'on vous avertisse pour éviter la résistance. Les barrières seront brûlées aujourd'hui. J'en suis sûr et n'y peux rien, vous non plus. N'essayez pas de l'empêcher. » Besenval n'eut pas peur, mais il n'avait pas moins reçu le coup, subi l'effet moral. « Je lui trouvais, dit-il, je ne sais quoi d'éloquent qui me frappa. J'aurais dû le faire arrêter, et je n'en fis rien. » C'était l'ancien régime et la révolution qui venaient de se voir face à face, et celle-ci laissait l'autre saisie de stupeur. Il n'était pas 9 heures et déjà 30 000 hommes étaient devant les Invalides. On voyait en tête le procureur de la ville, le comité des électeurs en avait osé le refuser. On voyait quelques compagnies de gardes françaises échappées de leurs casernes. On remarquait au milieu les clercs de la basoche, avec leur vieil habit rouge, et le curé de Saint-Étienne-du-Mont qui, nommé président de l'Assemblée réunie dans son église, ne déclina pas l'office périlleux de conduire la force armée. Le vieux Sombreuil fut très habile. Il se présenta à la grille, dit qu'il avait effectivement des fusils, mais que c'était un dépôt qui lui était confié, que sa délicatesse de militaire et de gentilhomme ne lui permettait pas de trahir. Cet argument imprévu arrêta la foule tout court. Admirable candeur du peuple à ce premier âge de la Révolution. Sombreuil ajoutait qu'il avait envoyé un courrier à Versailles, qu'il attendait la réponse, le tout avec force protestation d'attachement et d'amitié pour l'hôtel de ville et la ville en général. La plupart voulaient attendre. Il se trouva là heureusement un homme moins scrupuleux, qui empêcha la foule d'être ainsi mystifiée. Il n'y avait pas de temps à perdre, et ses armes, à qui étaient-elles sinon à la nation? On sauta dans les fossés et l'hôtel fut envahi. 28 000 fusils furent trouvés dans les caves, enlevés, avec 20 pièces de canon. Tout ceci entre 9 et 11. Mais courons à la Bastille. Le gouverneur de Launay était sous les armes, dès le 13, dès 2 heures de nuit. Il n'avait négligé aucune précaution. Outre ses canons des tours, il en avait de l'arsenal qu'il mit dans la cour, chargé à mitraille. Sur les tours, il fit porter 6 voitures de pavés, de boulets et de ferrailles pour écraser les assaillants. Dans les meurtrières du bas, il avait placé 12 gros fusils de rempart qui tiraient chacun 1,5 livre de balles. En bas, il tenait ses soldats les plus sûrs, 32 Suisses qui n'avaient aucun scrupule de tirer sur des Français. Ses 82 invalides étaient là pour la plupart dispersés, loin des portes, sur les tours. Il avait évacué les bâtiments avancés qui couvraient le pied de la forteresse. Le 13, rien sauf des injures que les passants venaient dire à la Bastille. Le 14, vers minuit, 7 coups de fusil sont tirés sur les factionnaires des tours. Alarme ! Le gouverneur monte avec l'état-major. Reste 1/2 heure. Écoutant les bruits lointains de la ville, n'entendant plus rien, il descend. Le matin, beaucoup de peuple, et de moment en moment, des jeunes gens, du palais royal ou autre, ils crient qu'il leur faut donner les armes. On ne les écoute pas. On écoute, on introduit la députation pacifique de l'hôtel de ville qui, vers 10 heures, prie le gouverneur de retirer ses canons, promettant que s'il ne tire point, on ne l'attaquera pas. Il accepte volontiers, n'ayant nul ordre de tirer, et plein de joie, oblige les envoyés de déjeuner avec lui. Comme il sortait, un homme arrive qui parle d'un tout autre ton. Un homme violent, audacieux, sans respect humain, sans peur ni pitié, ne connaissant ni obstacle ni délai, portant en lui le génie colérique de la Révolution. Il venait sommer la Bastille. La terreur entre avec lui. La Bastille a peur. Le gouverneur ne sait pourquoi, mais il se trouble, il balbutie. L'homme, c'était Thuriot, un doc terrible de la race de Danton. Nous le retrouvons 2 fois, au commencement et à la fin. Sa parole est 2 fois mortelle. Il tue la Bastille, il tue Robespierre. Il ne doit pas passer le pont. Le gouverneur ne le veut pas, et il passe. De la première cour, il marche à la seconde. Nouveau refus. Et il passe. Il franchit le second fossé par le pont-levis, et le voilà en face de l'énorme grille de fer qui fermait la troisième cour. Celle-ci semblait moins une cour qu'un puits monstrueux, dont les 8 tours unies entre elles formaient les parois. Ces affreux géants ne regardaient point du côté de cette cour, n'avaient pas une fenêtre. À leurs pieds, dans leur ombre, était l'unique promenade du prisonnier. Perdu au fond de l'abîme, oppressé de ces masses énormes, il n'avait à contempler que l'inexorable nullité des murs. D'un côté seulement, l'on avait placé une horloge entre 2 figures de captifs au fer, comme pour enchaîner le temps et faire plus lourdement peser la lente succession des heures. Là étaient les canons chargés, la garnison, l'état-major. Rien n'imposa à Thuriot. « Monsieur, dit-il au gouverneur, je vous somme au nom du peuple, au nom de l'honneur et de la patrie, de retirer vos canons et de rendre la Bastille. » Et, se tournant vers la garnison, il répéta les mêmes mots. Si M. Delaunay eût été un vrai militaire, il n'eût pas introduit ainsi le parlementaire au cœur de la place. Encore moins l'eût-il laissé haranguer la garnison. Mais il faut bien remarquer que les officiers de la Bastille étaient la plupart officiers par la grâce du lieutenant de police. Ceux même qui n'avaient servi jamais portaient la croix de Saint-Louis. Tous, depuis le gouverneur jusqu'au marmiton, avaient acheté leur place et ils en tiraient parti. Le gouverneur, à ses 60 000 livres d'appointements, trouvait moyen chaque année d'en ajouter tout autant par ses rapines. Il nourrissait sa maison aux dépens des prisonniers. Il avait réduit leur chauffage, gagné sur leur vin, sur leur triste mobilier. Chose impie, barbare, il louait à un jardinier le petit jardin de la Bastille qui couvrait un bastion. Et pour ce misérable gain, il avait ôté aux prisonniers cette promenade ainsi que celle des tours, c'est-à-dire l'air et la lumière. Cet homme basse et avide avait encore une chose qui lui abaissait le courage. Il savait qu'il était connu. Les terribles mémoires de Linguet avaient rendu Delaunay illustre en Europe. La Bastille était haïe, mais le gouverneur était personnellement haï. Les cris furieux du peuple qu'il entendait, il les prenait pour lui-même. Il était plein de troubles et de peur. Les paroles de Thuriot eurent un effet différent sur les Suisses et sur les Français. Les Suisses ne les comprirent pas. Leur capitaine, M. de Flux, fut résolu à tenir. mais l'état-major, mais les invalides furent fort ébranlés. Ces vieux soldats, en rapport habituel avec le peuple du faubourg, n'avaient nulle envie de tirer sur lui. Voilà la garnison divisée. Que feront les deux parties? S'ils ne peuvent s'accorder, vont-ils tirer l'un sur l'autre? Le triste gouverneur, d'un ton apologétique, dit ce qui venait d'être convenu avec la ville. Il jura et fit jurer à la garnison que s'il n'était attaqué, il ne le commencerait pas. Thuriot ne s'en tient pas là. Il veut monter sur les tours, voir si effectivement les canons se retiraient. Delaunay, qui n'en était pas à se repentir de l'avoir déjà laissé pénétrer si loin, refuse. Mais ses officiers le pressent, il monte avec Thuriot. Les canons étaient reculés, masqués, toujours en direction. La vue de cette hauteur de 140 pieds était immense, effrayante. Les rues, les places pleines de peuple. Tout le jardin de l'arsenal comble d'hommes armés. Mais voilà de l'autre côté une masse noire qui s'avance. C'est le faubourg Saint-Antoine. Le gouverneur devint pâle. Il prend Thuriot au bras. Qu'avez-vous fait? Vous abusez du titre de parlementaire. Vous m'avez trahi. Tous deux étaient sur le bord et Delaunay avait une sentinelle sur la tour. Tout le monde dans la bastille faisait serment au gouverneur. Il était dans sa forteresse, le roi et la loi. Il pouvait se venger encore. Mais ce fut tout au contraire Thuriot qui lui fit peur. « Monsieur, dit-il, un mot de plus et je vous jure qu'un de nous deux tombera dans le fossé. » Au moment même, la sentinelle approche, aussi troublée que le gouverneur, et s'adressant à Thuriot. « De grâce, monsieur, montrez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà qu'ils s'avancent. Ne vous voyant pas, ils vont attaquer. » Il passa la tête au créneau, et le peuple, le voyant en vie et fièrement monté sur la tour, poussa une clameur immense de joie et d'applaudissements. Thuriot descendit avec le gouverneur, traversa de nouveau la cour et, parlant encore à la garnison, « Je vais faire mon rapport. J'espère que le peuple ne se refusera pas à fournir une garde bourgeoise qui garde la Bastille avec vous. » Le peuple s'imaginait entrer dans la Bastille à la sortie de Thuriot. Quand il le vit partir pour faire son rapport à la ville, il le prit pour traître et le menaça. L'impatience allait jusqu'à la fureur. La foule prit trois invalides et voulait les mettre en pièces. Elle s'empara d'une demoiselle qu'elle croyait être la fille du gouverneur. Il y en avait qui voulaient la brûler s'il refusait de se rendre. D'autres l'arrachèrent de leurs mains. « Que deviendrons-nous, disait-il, si la Bastille n'est pas prise avant la nuit ?» Le grand Santerre, un brasseur que le faubourg s'était donné pour commandant, proposait d'incendier la place en y lançant de l'huile d'œillet et d'aspic qu'on avait saisi la veille et qu'on enflammerait avec du phosphore. Il l'envoyait chercher les pompes. Un charron, ancien soldat, sans s'amuser à ce parlage, se mit bravement à l'œuvre. Il avance, la hache à la main, monte sur le toit d'un petit corps de garde, voisin du premier pont-levis, et, sous une grêle de balles, il travaille paisiblement, coupe, abat les chaînes, fait tomber le pont. La foule passe, elle est dans la cour. On tirait à la fois des tours et des meurtrières qui étaient au bas. Les assaillants tombaient en foule et ne faisaient aucun mal à la garnison. De tous les coups de fusil qu'ils tirèrent tout le jour, deux portèrent. Un seul des assiégés fut tué. Le comité des électeurs, qui déjà voyait arriver les blessés à l'hôtel de ville, qui déplorait l'effusion de sang, aurait voulu l'arrêter. Il n'y avait plus qu'un moyen pour cela, c'était de sommer la Bastille, au nom de la ville, et d'y faire entrer la garde bourgeoise. Le prévôt hésitait fort. Fauché insista, d'autres électeurs pressèrent. Ils allèrent comme députés, mais dans le feu et la fumée, ils ne furent pas même vus, ni la Bastille ni le peuple ne cessèrent de tirer. Les députés furent dans leur plus grand péril. Une seconde députation, le procureur de la ville marchant à la tête avec un tambour et un drapeau, fut aperçu de la place. Les soldats qui étaient sur les tours arborèrent un drapeau blanc, renversèrent leurs armes. Le peuple cessa de tirer, suivit la députation, entra dans la cour. Arrivés là, ils furent accueillis d'une furieuse décharge qui coucha plusieurs hommes par terre à côté des députés. Très probablement, les Suisses qui étaient en bas avec Delaunay ne tinrent compte des signes que faisaient les invalides. La rage du peuple fut inexprimable. Depuis le matin, on disait que le gouverneur avait attiré la foule dans la cour pour tirer dessus. Ils se crurent trompés deux fois et résolurent de périr ou de se venger des traîtres. À ceux qui les rappelaient, ils disaient dans leur transport « Nos cadavres serviront du moins à combler les fossés ». Et ils allèrent obstinément, sans se décourager jamais contre la fusillade, contre ces tours meurtrières, croyant qu'à force de mourir, ils pourraient les renverser. Mais alors, et de plus en plus, nombre d'hommes généreux qui n'avaient encore rien fait s'indignèrent d'une lutte tellement inégale qu'il n'était qu'un assassinat. Ils voulurent en être. Il n'y eut plus moyen de tenir la garde française. Tous prirent parti pour le peuple. Ils allèrent trouver les commandants nommés par la ville, et les obligèrent de leur donner 5 canons. 2 colonnes se formèrent, l'une d'ouvriers et de bourgeois, l'autre de gardes françaises. La première prit pour son chef un jeune homme d'une taille et d'une force héroïque, Hulin, horloger de Genève, mais devenu domestique, chasseur du marquis de Conflans. Le costume hongrois de chasseur fut pris sans doute pour un uniforme. Les livrées de la servitude guidèrent le peuple au combat de la liberté. Le chef de notre colonne fut Élie, officier de fortune du régiment de la Reine, qui, d'abord en habit bourgeois, prit son brillant uniforme, se désignant bravement au sien et à l'ennemi. Dans ses soldats, il en avait un, admirable de vaillance, de jeunesse, de pureté, l'une des gloires de la France, Marceau, qui se contenta de combattre et ne réclama rien dans l'honneur de la victoire. Les choses n'étaient guère avancées quand ils arrivèrent. On avait poussé et allumé 3 voitures de paille, brûlé les casernes et les cuisines. Et l'on ne savait plus que faire. Le désespoir du peuple retombait sur l'hôtel de ville. On accusait le prévôt, les électeurs. On les pressait avec menaces d'ordonner le siège de la Bastille. Jamais on n'en put tirer l'ordre. Divers moyens bizarres et étranges étaient proposés aux électeurs pour prendre la forteresse. Un charpentier conseillait un ouvrage de charpenterie. Une catapulte romaine pour lancer des pierres contre les murailles. Les commandants de la ville disaient qu'il fallait attaquer dans les règles, ouvrir la tranchée. Pendant ces longs et vains discours, on apporta, on lut un billet que l'on venait de saisir. Bézenval écrivait à Delaunay de tenir jusqu'à la dernière extrémité. Pour sentir le prix du temps, dans cette crise suprême, pour s'expliquer l'effroi du retard, il faut savoir qu'à chaque instant il y avait de fausses alertes. On supposait que la cour, instruite à 2 heures de l'attaque de la Bastille, commencée depuis midi, prendrait ce moment pour lancer sur Paris ses Suisses et ses Allemands. Ceux de l'école militaire passeraient-ils le jour sans agir? Cela n'était pas vraisemblable. Ce que dit Bézenval du peu de fond qu'il pouvait faire sur ses troupes a l'air d'une excuse. Les Suisses se montrèrent très fermes à la Bastille. Il y parut au carnage. Les dragons allemands avaient tiré plusieurs fois, le 12, tué des gardes françaises. Ceux-ci avaient tué des dragons. La haine de corps assurait la fidélité. Le faubourg Saint-Honoré est dépavé, se croyait attaqué de moment en moment. La Villette était dans les mêmes transes, et effectivement, un régiment mal occupé mais trop tard. Toute lenteur semblait trahison. Les tergiversations du prévôt le rendaient suspect ainsi que les électeurs. La foule indignée sentit qu'elle perdait le temps avec eux. Un vieillard s'écrie « Amis, que faisons-nous là avec ces traîtres? Allons plutôt à la Bastille !» Tout s'écoula. Les électeurs stupéfaits se trouvèrent seuls. L'un d'eux sort, et rentrant tout pâle avec le visage d'un spectre, « Vous n'avez pas 2 minutes à vivre si vous restez. » La greffe frémit de rage, les voilà qui montent. Ils n'essayèrent pas de fuir, et c'est ce qui les sauva. Toute la fureur du peuple se concentra sur le prévôt des marchands. Les envoyés des districts venaient successivement lui jeter sa trahison à la face. Une partie des électeurs, se voyant compromis devant le peuple, par son imprudence et par ses mensonges, tournèrent contre lui, l'accusèrent. D'autres, le bon vieux Dussault, le traducteur de Juvénal, l'intrépide Fauché, essayèrent de le défendre, innocent ou coupable, de le sauver de la mort. Forcés par le peuple de passer du bureau dans la grande salle Saint-Jean, ils l'entourèrent, et Fauché s'assit à côté de lui. Les affres de la mort étaient sur son visage. « Je le voyais, dit Dussault, mâchant sa dernière bouchée de pain. Elle lui restait aux dents et il la garda 2 heures sans venir à bout d'avaler. » Environné de papiers, de lettres, de gens qui venaient lui parler affaire au milieu des cris de mort, il faisait effort pour répondre avec affabilité. Ceux du palais royal et du district de Saint-Roch étant les plus acharnés, Fauché y courut pour demander grâce. Le district était assemblé dans l'église de Saint-Roch. 2 fois, Fauché monta en chaire, priant, pleurant, disant les paroles ardentes que son grand cœur pouvait trouver dans cette nécessité. Sa robe, toute criblée des balles de la Bastille, était éloquente aussi. Elle priait pour le peuple même, pour l'honneur de ce grand jour, pour laisser pur et sans tache le berceau de la liberté. Le prévôt, les électeurs, restaient à la salle Saint-Jean, entre la vie et la mort, plusieurs fois couchés en joue. Tous ceux qui étaient là, dit Dussault, étaient comme des sauvages. Parfois ils écoutaient, regardaient en silence. Parfois un murmure terrible, comme un tonnerre sourd, sortait de la foule. Plusieurs parlaient et criaient, mais la plupart étaient étourdis de la nouveauté du spectacle. Les bruits, les voix, les nouvelles, les alarmes, les lettres saisies, les découvertes vraies ou fausses, tant de secrets révélés, tant d'hommes amenés au tribunal brouillaient l'esprit et la raison. Un des électeurs disait « N'est-ce pas le jugement dernier ? L'étourdissement était arrivé à ce point qu'on avait tout oublié, le prévôt et la Bastille. » Il était 5h30. Un cri monte de la grève. Un grand bruit d'abord lointain éclate, avance, se rapproche avec la rapidité et le fracas de la tempête. La Bastille est prise. Dans cette salle déjà pleine, il entre d'un coup 1000 hommes et 10 000 poussés derrière. Les boiseries craquent, les bancs se renversent. La barrière est poussée sur le bureau sur le président. Tous armés de façon bizarre, les uns presque nus, d'autres vêtus de toutes couleurs. Un homme était porté sur les épaules et couronné de lauriers. C'était Élie, toutes les dépouilles et les prisonniers autour. En tête, parmi ce fracas où l'on n'aurait pas entendu la foudre, marchait un jeune homme recueilli et plein de religion. Il portait suspendu et percé de sa baïonnette une chose impie, trois fois maudite, le règlement de la Bastille. Les clés aussi étaient portées, ces clés monstrueuses, ignobles, grossières, usées par les siècles et par les douleurs des hommes. Le hasard ou la providence voulut qu'elles fussent remises à un homme qui ne les connaissait que trop, à un ancien prisonnier. L'Assemblée nationale les plaça dans ses archives, la vieille machine des tyrans à côté des lois qui ont brisé les tyrans. Nous les tenons encore aujourd'hui, ces clés, dans l'armoire de fer des archives de la France. Ah, puisse dans l'armoire de fer venir s'enfermer les clés de toutes les Bastilles du monde. La Bastille ne fut pas prise, il faut le dire, elle se livra. Sa mauvaise conscience la troubla, la rendit folle et lui fit perdre l'esprit. Les uns voulaient qu'on se rendît, les autres tiraient, surtout les Suisses qui, 5 heures durant, sans péril, n'ayant nulle chance d'être atteints, désignèrent, visèrent à leur aise, abattirent qui ils voulaient. Ils tuèrent 83 hommes, en blessèrent 88. 20 des morts étaient de pauvres pères de famille qui laissaient des femmes, des enfants pour mourir de faim. La honte de cette guerre sans danger, l'horreur de verser le sang français qui ne touchait guère les Suisses, finit par faire tomber les armes des mains des invalides. Les sous-officiers, à 4 heures, prièrent, supplièrent Delaunay de finir ses assassinats. Ils savaient ce qu'ils méritaient. Mourir pour mourir, il eut envie un moment de se faire sauter. Idée horriblement féroce, il aurait détruit un tiers de Paris. Ces 135 barils de poudre auraient soulevé la Bastille dans les airs, écrasé, enseveli tout le faubourg, tout le marais, tout le quartier de l'arsenal. Il prit la mèche d'un canon. 2 sous-officiers empêchèrent le crime. Ils croisèrent la baïonnette et lui fermèrent l'accès des poudres. Il fit mine alors de se tuer et prit un couteau qu'on lui arracha. Il avait perdu la tête et ne pouvait donner l'ordre. Quand les gardes françaises eurent mis leurs canons en batterie et tiré, selon quelques-uns, le capitaine des Suisses vit bien qu'il fallait traiter. Il écrivit. Il passa un billet où il demanda à sortir avec les honneurs de la guerre. Refusé. Puis la vie sauve. Hulin et Élie promirent. La difficulté était de faire exécuter la promesse. Empêcher une vengeance entassée depuis des siècles, hériter par tant de meurtres que venait de faire la Bastille, qui pouvait cela? Une autorité qui datait d'une heure, qui venait de la grève à peine, qui n'était même connue que des 2 petites bandes de l'avant-garde, n'était pas pour contenir 100 000 hommes qui suivaient. La foule était enragée, aveugle, ivre de son danger même. Elle ne tua cependant qu'un seul homme dans la place. Elle épargna ses ennemis, les Suisses, car leurs sarraux elle prenait pour des domestiques ou des prisonniers. Elle blessa, maltraita ses amis, les invalides. Elle aurait voulu pouvoir exterminer la Bastille. Elle brisa à coups de pierre les 2 esclaves du cadran. Elle monta autour pour insulter les canons. Plusieurs s'en prenaient aux pierres et s'ensanglantaient les mains à les arracher. On alla vite au cachot délivrer les prisonniers. 2 étaient devenus fous. L'un, effarouché du bruit, voulait se mettre en défense. Il fut tout surpris quand ceux qui brisèrent sa porte se jetèrent dans ses bras en le mouillant de leurs larmes. Un autre, qui avait une barbe jusqu'à la ceinture, demanda comment se portait Louis XV. Il croyait qu'il régnait encore. À ceux qui demandaient son nom, il disait qu'il s'appelait le Major de l'Immensité. Les vainqueurs n'avaient pas fini. Ils soutenaient dans la rue Saint-Antoine un autre combat. En avançant vers la grève, il rencontrait de proche en proche des foules d'hommes qui, n'ayant pas pris part au combat, voulaient pourtant faire quelque chose, tout au moins massacrer les prisonniers. L'un fut tué dès la rue des Tournelles, un autre sur le quai. Des femmes suivaient et chevelées qui venaient de reconnaître leur mari parmi les morts, et elles les laissaient là pour courir aux assassins. L'une d'elles, écumante, demanda à tout le monde que lui donnât un couteau. Delaunay était mené, soutenu dans ce grand péril par 2 hommes de cœur et d'une force peu commune. Hulin et un autre. Ce dernier alla jusqu'au petit Antoine et fut arraché de lui par un tourbillon de foule. Hulin ne lâcha pas prise. Conduire son homme de là à la grève, qui est si près, c'était plus que les 12 travaux d'Hercule. Ne sachant plus comment faire, et voyant qu'on ne connaissait Delaunay qu'à une chose, que seul il était sans chapeau, il eut l'idée héroïque de lui mettre le sien sur sa tête, et dès ce moment reçut les coups qu'on lui destinait. Et il passa enfin l'arcade Saint-Jean. S'il pouvait lui faire monter le perron, le lancer dans l'escalier, tout était fini. La foule le voyait bien. Aussi, de son côté, fit à la feuille aux efforts. La force de géant qu'il avait déployée ne lui servit plus ici. Étreint du boa énorme que la masse tourbillonnante serrait et resserrait sur lui, il perdit terre, fut poussé, repoussé, lancé sur la pierre. Il se releva par deux fois. À la seconde, il vit dans l'air, au bout d'une pique, la tête de Delaunay. Une autre scène se passait dans la salle Saint-Jean. Les prisonniers étaient là, en grand danger de mort. On s'acharnait surtout contre trois invalides qu'on croyait avoir été les canonniers de la Bastille. L'un était blessé. Le commandant de la salle, par d'incroyables efforts, en invoquant son titre de commandant, vint à bout de le sauver. Pendant qu'il le menait dehors, les deux autres furent entraînés, accrochés à la lanterne du coin de la vannerie, en face de l'hôtel de ville. Ce grand mouvement, qui semblait avoir fait oublier Flessel, fut pourtant ce qui le perdit. Ces implacables accusateurs du palais royal, peu nombreux mais mécontents de voir la foule occupée de toute autre affaire, se tenaient près du bureau, le menaçaient, le sommaient de les suivre. Il finit par leur céder. Soit qu'une si longue attente de la mort lui parût pure que la mort même, soit qu'il espérât échapper dans la préoccupation universelle du grand événement du jour. « Eh bien, messieurs, dit-il, allons au palais royal. » Il n'était pas ok qu'un jeune homme lui cassât la tête d'un coup de pistolet. La masse du peuple accumulée dans la salle ne demandait pas de sang. Il le voyait couler avec stupeur, dit le témoin oculaire. Il regardait, bouche béante, ce prodigieux spectacle, bizarre, étrange à rendre fou. Les armes du Moyen-Âge, de tous les âges, se mêlaient. Les siècles étaient présents. Élie, debout sur une table, le casque en tête, à la main son épée faussée à trois places, semblait un guerrier romain. Il était tout entouré de prisonniers et priait pour eux. Les gardes françaises demandaient pour récompense la grâce des prisonniers. À ce moment, on amène, on apporte plutôt, un homme suivi de sa femme. C'était le prince de Montbarret, ancien ministre, arrêté à la barrière. La femme s'évanouit. L'homme est jeté sur le bureau, tenu sous le bras de 12 hommes, pliés en deux. Le pauvre diable, dans cette étrange attitude, expliqua qu'il n'était plus ministre depuis longtemps, que son fils avait eu grande part à la révolution de sa province. Le commandant de la salle parlait pour lui et s'exposait beaucoup lui-même. Cependant, on s'adoucit, on lâcha prise un moment. De la salle, qui était très fort, enleva le malheureux. Ce coup de force plut au peuple et fut applaudi. Au moment même, le brave et excellent Élie trouva moyen de finir d'un coup tout procès, tout jugement. Il aperçut les enfants du service de la Bastille et il se mit à crier « Grâce pour les enfants, grâce !» Vous auriez vu alors les visages bruns, les mains noircies par la poudre qui commençaient à se laver de grosses larmes, comme tombent après l'orage les grosses gouttes de pluie. Il ne fut plus question de justice ni de vengeance. Le tribunal était brisé. Élie avait vaincu les vainqueurs de la Bastille. Ils firent jurer aux prisonniers fidélité à la nation et les emmenèrent avec eux. Les invalides s'en allèrent paisiblement à leur hôtel. Les gardes françaises s'emparèrent des Suisses, les mirent en sûreté dans leur rang, les conduisirent à leur propre caserne, les logèrent et les nourrirent. Les veuves, chose admirable, se montrèrent aussi magnanimes, indigentes et chargées d'enfants. Elles ne voulurent pas recevoir seules une petite somme qui leur fut distribuée. Elles mirent dans le partage la veuve d'un pauvre invalide qui avait empêché la Bastille de sauter et qui fut tuée par méprise. La femme de l'assiégé fut ainsi comme adoptée par celle des assiégeants.